Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Crime et châtiment de Dostoïevski. En juillet 1865, Rodion Romanovitch Raskolnikov est un ancien étudiant en droit âgé de 23 ans sans le sou. Par manque d'argent, il a dû abandonner ses études et vit dans un quartier malfamé de Saint-Pétersbourg. Rongé par la pauvreté, il s'isole du reste du monde. Après avoir vendu son dernier bien, la montre de son père, à une usurière, une idée lui vient à l'esprit. Un meurtre est-il moralement tolérable s'il conduit à une amélioration de la condition humaine? Il a décidé d'assassiner l'usurière depuis quelque temps, mais son plan ne se déroule pas comme prévu et il commet un double meurtre. Pris de remords et de culpabilité, il se rend compte qu'il ne peut être pardonné et qu'il ne sera jamais un grand homme, comme il espère tant. Raskolnikov passe du crime au châtiment. La conscience de son crime le rend presque fou, mais il rencontre Sonia Semenovna, une jeune prostituée dont il tombe amoureux. Dostoïevski utilise cette relation comme une allégorie de l'amour de Dieu pour l'humanité déchue et du pouvoir de rédemption de l'amour. Mais Raskolnikov n'est racheté que par l'aveu du meurtre et la déportation en Sibérie. Un roman profond, poignant et psychologique, cette œuvre plonge au plus profond de l'âme humaine. Elle dépeint avec une justesse déroutante ses recoins les plus sombres, ses tendances les plus macabres, mais aussi son désir éperdu de rédemption. La violence y est partout, omniprésente. Les crimes qui se commettent en Russie peuvent être d'une cruauté inouïe. Pourtant, dans le sol russe, se dessine un chemin qui tend vers le ciel. Le pays serait-il fait d'une matière particulière? Dostoïevski en est persuadé. Le peuple russe pue, mais il croit en la vérité. Et comme il croit, le sauveur se montre à lui. Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski est né le 11 novembre 1821 à Moscou. Il est le second fils. Son père est médecin militaire à l'hôpital des indigents de Moscou. Sa mère meurt de tuberculose. Dostoïevski n'a que 16 ans. Il est initié très jeune à la littérature. Il lit avec ferveur le russe Nicolas Gogol, mais aussi Shakespeare, Goethe, Victor Hugo et surtout Schiller, auteur déterminant dans sa vocation d'écrivain. Dostoïevski entre à l'Institut supérieur des ingénieurs militaires à Saint-Pétersbourg en janvier 1838. C'est un élève taciturne qui ne s'intègre pas bien à l'école. Son père aurait été tué le 8 juin 1839 par les serfs de Darovoï, excédés par les mauvais traitements que leur faisait subir leur maître. Après la mort de son père, Dostoïevski poursuit ses études et obtient le grade d'élève ingénieur. À l'été 1844, il démissionne à 22 ans pour se consacrer à son premier roman, Les pauvres gens. En avril 1849, il est arrêté suite à des insurrections contre l'empereur Nicolas II. Il est envoyé dans un bagne en Sibérie et décrit cette expérience dans L'Idiot. En sa qualité de noble, certaines punitions et certains mauvais traitements lui sont épargnés, ce qui lui vaut d'être détesté par les autres détenus. Cette période déterminante trouvera écho dans plusieurs passages importants de ses livres ultérieurs, dont l'épilogue de Crime et châtiment. Sa peine se termine le 23 janvier 1854 et il est affecté comme simple soldat dans un régiment en Sibérie. Il épouse Maria Dmitrievna Isaïeva le 15 février 1857. En avril 1857, il est rétabli dans ses titres de noblesse et obtient à nouveau le droit de publier librement. En 1859, il obtient sa retraite comme sous-lieutenant et l'autorisation de rentrer vivre à Saint-Pétersbourg sous la surveillance de la police secrète. L'arrivée au pouvoir du nouvel empereur Alexandre II en 1855 a amené de nombreuses réformes en Russie, en particulier le servage, qui est aboli en 1861. En juin 1862, il voyage pour la première fois en Europe occidentale. Sa femme, Maria Dmitrievna, puis son frère Mikhailovitch meurent en 1864. Les deux premières parties de Crimes et châtiments sont publiées en janvier et février 1866 dans le périodique Le Messager russe. Dostoïevski retourne à Saint-Pétersbourg à la mi-septembre et promet à son éditeur qu'il terminerait Le Joueur en novembre, dont il n'a pas débuté la rédaction. L'un de ses amis lui conseille d'embaucher une secrétaire, Anna Grigorievna Snikina, alors âgée de 20 ans. Sa sténographie permet à Dostoïevski de terminer la rédaction du Joueur après 26 jours de travail. Il épouse, contre l'avis de sa famille, Anna Grigorievna Snikina, dans la cathédrale de la Trinité à Saint-Pétersbourg, seulement quelques mois après, le 15 février 1867. Dostoïevski commence L'Idiot à Genève, qui est terminé à grand-peine en janvier 1869. Leur premier enfant, Sophia, née à Genève le 5 mars 1868, meurt de pneumonie 3 mois plus tard. Il finit par renoncer au jeu. La famille rentre à Saint-Pétersbourg le 8 juillet 1871, marquant la fin d'une lune de miel qui a duré plus de 4 ans. Son œuvre romanesque s'achève en 1880 par les frères Karamazov, qu'il publie à l'âge de 59 ans. Cette œuvre incarne l'apogée de Dostoïevski. Le roman synthétise ses deux plus grands thèmes de réflexion, la force irrationnelle de la passion et l'existence de Dieu. Il succombe à une hémorragie pulmonaire le 9 février 1881. Ses obsèques nationales ont lieu le 12 février 1881 et sont suivies par 30 000 personnes. Il est enterré au cimetière Tikhvine à Saint-Pétersbourg. Sur sa pierre tombale est cité un verset du Nouveau Testament. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Considéré aux côtés de Léon Tolstoï comme l'un des plus grands romanciers russes, il a influencé de nombreux écrivains, Albert Camus, André Gide, André Malraux, les Russes, Alexandre Solzhenitsyn, Anton Tchekhov ou encore Mikhail Bulgakov, les philosophes, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, ainsi que l'émergence de l'existentialisme et du freudisme. Ses livres ont été traduits dans plus de 170 langues et presque tous sont l'objet d'adaptations cinématographiques. Nous retiendrons celle de Stelio Lorenzi. Raskolnikov n'avait pas l'habitude de la foule, et comme nous l'avons dit ces derniers temps surtout, il fuyait la société de ses semblables. Mais à cet instant, il se sentit tout à coup attiré vers eux. Une sorte de révolution semblait s'opérer en lui. Il éprouvait le besoin de voir des êtres humains. Il était si las de tout ce mois d'angoisse et de sombres exaltations qu'il venait de vivre dans la solitude, qu'il éprouvait à présent le besoin de se retremper, même une minute, dans un autre monde. N'importe lequel. Aussi s'attardait-il avec plaisir dans ce cabaret, malgré la saleté qui y régnait. Le tenancier se tenait dans une autre pièce, mais il faisait de fréquentes apparitions dans la salle. On le voyait descendre les marches. C'étaient ses bottes, d'élégantes bottes bien cirées à larges revers rouges, qui apparaissaient tout d'abord. Il portait une blouse, un gilet de satin noir tout graisseux et n'avait pas de cravate. Tout son visage semblait huilé comme un cadenas de fer. Un garçon de 14 ans était assis au comptoir, un autre plus jeune servait les clients. Des concombres coupés en morceaux, des biscottes de pain noir et des tranches de poisson étaient exposées en vitrine. Ils exhalaient une odeur infecte. La chaleur était insupportable. L'atmosphère si chargée de vapeur d'alcool qu'elle risquait de vous griser en 5 minutes. Il nous arrive parfois de rencontrer des personnes, souvent des inconnus, qui nous inspirent un intérêt subi, à première vue, avant même que nous n'ayons pu échanger un mot avec elles. Ce fut l'impression que produisit sur Raskolnikov l'individu assis à l'écart et qui ressemblait à un fonctionnaire en retraite. Plus tard, chaque fois que le jeune homme se rappelait cette première impression, il l'attribuait à une sorte de pressentiment. Il ne le quittait pas des yeux. L'autre non plus ne cessait de le regarder et paraissait fort désireux d'engager la conversation. Quant aux autres personnes qui se trouvaient dans le cabaret, y compris le patron, il les considérait d'un air d'ennui, avec une sorte de mépris hautain, comme des êtres d'une classe et d'une éducation trop inférieure pour qu'il daignât leur adresser la parole. C'était un homme qui avait dépassé la cinquantaine, robuste et de taille moyenne. Ses quelques cheveux grisonnaient. Son visage était bouffi par l'ivrognerie, d'un jaune presque verdâtre. Entre ses paupières gonflées, luisaient de tout petits yeux injectés de sang, mais pleins de vivacité. Ce qui étonnait le plus dans ce visage, c'était l'enthousiasme qu'il exprimait peut-être aussi, une certaine finesse et de l'intelligence, mais dans son regard passaient des éclairs de folie. Il portait un vieux frac tout déchiré qui avait perdu ses boutons, sauf un, seul avec lequel il le fermait, dans un désir de correction sans doute. Un gilet de nankin laissait voir un plastron tout fripé, immaculé de taches. Comme tous les fonctionnaires, il ne portait pas la barbe, mais il ne s'était pas rasé depuis longtemps. Un poil rude et bleuâtre commençait à envahir son menton et ses joues. Ses manières avaient une gravité bureaucratique, mais il semblait fort agité. Il fourrageait dans ses cheveux, les ébouriffait et se prenait la tête à deux mains d'un air d'angoisse, ses bras aux manches troués, accoudés sur la table crasseuse. Les frères Karamazov. Alexei Fiodorovitch Karamazov était le troisième fils d'un propriétaire foncier de notre district, Fyodor Pavlovitch, dont la mort tragique survenue il y a 13 ans fit beaucoup de bruit en son temps et n'est point encore oubliée. J'en parlerai plus loin et me bornerai pour l'instant à dire quelques mots de ce propriétaire, comme on l'appelait, bien qu'il n'eût presque jamais habité sa propriété. Fyodor Pavlovitch était un de ces individus corrompus en même temps qu'ineptes, type étrange mais assez fréquent, qui s'entendent uniquement à soigner leurs intérêts. Ce petit hobereau débuta avec presque rien et s'acquit promptement la réputation de pique-assiette. Mais à sa mort, il possédait quelque 100 000 roubles d'argent liquide. Cela ne l'empêcha pas d'être, sa vie durant, un des pires extravagants de notre district. Je dis extravagant et non point imbécile, car les gens de cette sorte sont pour la plupart intelligents et rusés. Il s'agit là d'une ineptie spécifique. Il fut marié 2 fois et eut 3 fils, l'aîné Dimitri du premier lit et les 2 autres, Ivan et Alexei du second. Sa première femme appartenait à une famille noble, les Miusov, propriétaires assez riches du même district. Comment une jeune fille bien dotée, jolie, de vive allure, éveillée, spirituelle, telle qu'on en trouve beaucoup parmi nos contemporaines, avait-elle pu épouser pareil et cervelé, comme on l'appelait ce triste personnage? Je crois inutile de l'expliquer trop longuement. J'ai connu une jeune personne, de l'avant-dernière génération, romantique, qui, après plusieurs années d'un amour mystérieux pour un monsieur qu'elle pouvait épouser en tout repos, finit par se forger des obstacles insurmontables à cette union. par une nuit d'orage, elle se précipita du haut d'une falaise dans une rivière rapide et profonde et périt victime de son imagination, uniquement pour ressembler à l'Ophélie de Shakespeare. Si cette falaise, qu'elle affectionnait particulièrement, eût été moins pittoresque ou remplacée par une rive plate et prosaïque, elle ne se serait sans doute point suicidée. Le fait est authentique, et je crois que les deux ou trois dernières générations russes ont connu bien des cas analogues. Pareillement, la décision que prit Adélaïde Mouyoussov fut sans doute l'écho d'influences étrangères, l'exaspération d'une âme captive. Elle voulait peut-être affirmer son indépendance, protester contre les conventions sociales, contre le despotisme de sa famille. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.